La mêlée de l'info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric Dupri. La mêlée de l'info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric Dupri.
Bienvenue sur Radio Présence, à l'écoute de la mêlée de l'info. Ravi de vous retrouver pour nos débats hebdomadaires consacrés à l'actualité nationale. Voici les trois invités de ce numéro. Je salue Françoise Laborde, ex-sénatrice de la Haute-Garonne, membre du Rassemblement démocratique et social européen. Je salue aussi le retour dans cette émission de Régis Godec, membre du bureau exécutif régional du Parti Les Écologistes, candidat à Toulouse Métropole. Et je salue enfin Jean-Baptiste de Scorail, adjoint maire de Toulouse, conseiller départemental de la Haute-Garonne et membre du Parti Les Républicains. Bienvenue également à tous les trois. Merci d'être présents au rendez-vous. Et en parlant de rendez-vous, il y en a un qui était très attendu mardi, celui qu'avaient nos députés au Palais Bourbon pour voter le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Après plusieurs semaines de débats et de nombreuses négociations, quasi jusqu'à la dernière minute, ce projet de loi a été adopté avec 247 voix pour et 234 contre. Un résultat serré comme on pouvait s'y attendre, favorable pour le gouvernement de Sébastien Lecornu à 13 voix près, permettant donc l'adoption des trois parties du budget de la Sécu pour 2026, c'est-à-dire les parties recettes, dépenses et comptes de l'année en cours, et ce, sans passer par l'utilisation du 49.3. Quelles leçons tirez-vous de cet épisode parlementaire et du vote du 9 décembre sur le plan politique, et que vous inspire le contenu de ce projet de loi ? Françoise Laborde, qu'en dit l'ex-sénatrice, l'ex-parlementaire que vous êtes ?
Je vais commencer par être très claire. Je pense que je l'aurais voté. Parce que justement, pour moi, c'est une accalmie bienvenue par rapport à notre population, aux citoyens, qui ont vu que les députés ont beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé, peut-être encore plus que d'habitude, si je peux me le permettre, parce qu'ils ont voulu éviter le 49-3. Donc quand on dit des fois il y a de la tambouille, là je pense qu'il y a eu des vraies négociations, avec sûrement des compromis, mais on apprend à travailler ensemble. Puisque l'Assemblée, c'est plus des gros blocs qui se jetaient des trucs à la figure. Je dis pas qu'ils s'en jettent pas des gentillesses matinales ou en journée, peu importe. Mais ils sont obligés de construire derrière. Et bon, après on pense qu'on veut des avancées. Moi, je trouve que les plus 3%, par exemple, pour l'hôpital public, puisque j'espère que ce sera utilisé à bon escient, c'est bienvenu. Je ne suis peut-être pas, quand je dis peut-être, je suis mignonne, fan de la décision par rapport à la retraite, mais ça permet de remettre à plat et d'avancer. Donc, aujourd'hui, et je trouve que Sébastien Lecornu ne crie pas victoire, hein, il sait se tenir, je pense qu'il a mouillé la chemise, je pense que s'il y en a un qui est épuisé, c'est bien lui aussi. Et donc, il met en avant la façon, enfin sa nouvelle méthode, c'est-à-dire qu'il avait dit « je n'utiliserai pas le 49-3, je n'utiliserai pas le 49-3 ». Il a réussi à tenir grâce à quelques députés intelligents. Donc, Moi, je trouve que c'est plutôt un résultat positif, parce qu'aussi on nous a mis en avant beaucoup de choses par rapport au déficit. Si on n'avait rien fait, on serait à 30 milliards. Donc si on vote un budget, on a quand même voté des recettes, les comptes de l'année, les dépenses. On ne sera peut-être qu'à, parce que c'est toujours un qu'à 19 milliards.
Ce qui est annoncé, bon, en tout cas.
Voilà. Non, mais voilà. Donc, à un moment, je me dis que notre Assemblée nationale, dans les années futures, on ne sait pas ce que sera la prochaine présidentielle, mais l'Assemblée ne sera plus... Elle sera plus mélangée, parce qu'elle elle ressemblera peut-être vraiment à la population. On le voit bien, c'était des gros blocs, et peut-être tout le monde ne s'y retrouvait pas. Mais si on veut s'y retrouver, il faut apprendre à travailler ensemble, par compromis, par négociation. Et quand je dis vraiment travailler, vous voyez ce que je veux dire. Pas que de la présence qui s'écoute parler sur Twitter, sur Facebook, sur et toutes les autres, l'Insta, enfin ce que vous voulez. Et qui fait que, une fois qu'on a dit sa petite phrase, on s'en va. Moi, je l'ai vu, on le voit encore, mais un peu moins parce qu'il faut bosser.
Régis Godec, est-ce que vous faites une analyse un peu similaire à celle de Françoise Laborde, ou est-ce que vous avez des nuances à y apporter, voire carrément des contradictions ?
Moi, je vais être honnête, je ne vais pas me prononcer sur le sujet du projet de loi de financement de la sécurité sociale en soi, parce que je suis assez occupé sur les questions des municipales et des élections métropolitaines en ce moment, donc je n'ai pas pu suivre les débats dans les détails. En tout cas, si j'avais dû siéger à l'Assemblée nationale mardi, j'aurais eu bien des difficultés, effectivement, à déterminer mon vote. Et finalement, on peut s'en réjouir. On peut s'en réjouir que quelque chose qu'on appelait de nos voeux, à savoir la désignation de l'Assemblée voilà, proportionnelle pour donner une plus grande diversité à la représentation nationale, se soit fait sans la proportionnelle, dans un premier temps. Et qu'on ait effectivement la nécessité, l'obligation de passer des compromis entre familles politiques, de discuter et de trouver quelque chose qui pourrait convenir à chacune et à chacun, ou en tout cas à la majorité des personnes qui sont représentées. Et ça, c'est difficile en France, parce qu'en fait, on n'en a pas du tout la culture.
C'est pas notre culture.
Pas du tout la culture. Dans d'autres pays, je pense à l'Allemagne ou d'autres, et évidemment dans les institutions européennes, la culture de compromis, elle est ancrée parce qu'elle est nécessaire. Aucune famille politique ne peut écraser les autres formations politiques. Et nous, dans la Ve République, ce n'est pas du tout ça. Donc on a plutôt des camps politiques qui mettent en scène la confrontation. Depuis toujours, hein. c'est pas récent, mais ces dernières années, le spectacle politique, je vais parler de spectacle, a beaucoup surfé sur la polarisation et la construction de familles politiques les unes contre les autres, et même de catégories de Françaises et de Français les unes et les uns contre les autres. Et ça, je pense que ça abîme profondément la République, et que si aujourd'hui on a une si grande désaffection pour les politiques, ou le débat politique, ou les décisions politiques de la part des Français, et un désintérêt, c'est à cause du spectacle que l'on donne de cette évolution. Donc moi, je me réjouis, évidemment pas de chacune des mesures qui ont été votées, mais du fait qu'on soit obligé de discuter et de défendre, d'assumer devant ses électrices, devant ses électeurs, devant ses partisans, parce que quand on est député, on représente son parti, mais on représente surtout les habitants de sa circonscription, et ils n'ont pas tous et toutes voté pour vous. Et je me réjouis que les députés viennent expliquer pourquoi dans ce projet il y avait des choses qui n'allaient pas, mais il y avait aussi des choses qui allaient, et que c'était peut-être plus intéressant de choisir ça plutôt que la confrontation permanente qui nous aurait mis dans une impasse encore plus grande. Et je me satisfais du vote des élus écologistes qui ont eu le courage de la nuance, on va le dire, et de permettre, certains par leur voix pour, d'autres par leur abstention, de faire en sorte que ce projet soit adopté. Je ne sais pas ce que ça va donner sur les autres éléments. Alors il y a eu d'autres votes depuis, d'ailleurs un vote important sur le budget de la défense. Mais sur le reste, je ne sais pas ce que ça va donner dans le projet de loi finance, mais je vois qu'on est obligé de discuter, et j'espère que ça nous ouvre une culture de la construction politique un peu plus large que ce qu'on a connu jusqu'ici.
Donc, à ma question, quelle leçon vous tirez de cet épisode parlementaire sur le plan politique, je vois que Françoise Laborde et Régis Godec tirent plutôt des leçons positives de ce qui s'est passé, même s'ils ne se réjouissent pas globalement du contenu de ce projet de loi de finances de la Sécurité sociale. Jean-Baptiste de Scorail, vous, est-ce que vous êtes sur cette longueur d'onde? Je ne suis pas certain.
Pas tout à fait. Bon, je vais vous expliquer ma situation, qui est un peu celle aussi des socialistes, c'est qu'on se retrouve prisonnier, et peut-être des écologistes, je nuancerais peut-être un peu, prisonnier dans les taux. Donc je parle en tant que conseiller départemental, bien sûr, et en tant que membre des Républicains, mais pas en tant que porte-parole des Républicains. C'est compliqué. C'est compliqué parce que, d'un côté, vous connaissez ma vision pour la France, et je pense qu'il faut qu'on arrive à avancer et débloqué de cette situation. Mais d'un autre, et c'est là qui pour moi c'est quelque chose de compliqué, c'est que ce budget est un budget quand même très à gauche pour moi.
On va parler de budget socialiste.
Oui, on va dire socialiste peut-être, pour ne pas dire très à gauche, mais socialiste, sur lequel je ne suis pas d'accord. Et il y a un point, et Françoise en a parlé tout à l'heure, je crois qu'elle est d'accord avec moi, ce que j'ai un peu compris, alors peut-être que je me suis trompé, sur la réforme de la retraite, moi, je trouve que, enfin, sur la réforme, effectivement, je trouve que on n'aurait pas dû la suspendre. Et ça, même si elle n'était pas bonne, je crois que c'est une erreur fondamentale, surtout parce qu'on trompe les Français, parce qu'il ne faut pas croire que les gens à qui on a dit qu'on allait suspendre, vont avoir leur retraite, leur départ à la retraite suspendu. C'est faux. Tout le monde le sait. Et donc là-dessus, moi j'ai un problème. Je suis plutôt de l'avis de M. Retailleau, c'est que j'aurais préféré qu'on fasse un budget de gestion, et pas de taxation. Et là, on s'aperçoit qu'il y a de la taxation. Alors, c'est compliqué, parce que d'un côté, effectivement, ben, j'ai envie que la France sorte de cette problématique. Mais d'un autre, je crois que ce budget n'était pas votable. Et je pense, alors j'ai changé plusieurs fois d'avis, mais je pense que j'aurais été député, j'aurais voté contre ce budget. Oui. Voilà un peu ma position qui est compliquée, mais elle, c'est un peu la position de tous. Mais c'est vrai que, alors chez nous, il y a eu des gens qui ont voté pour, il y a des gens qui se sont abstenus, il y a des gens bien sûr qui ont voté contre. Donc c'est vrai que quand on voit ça, ça rejoint un peu la position de chacun des invités ici, de dire que ben, chacun a voté en son âme conscience. Mais j'ose espérer qu'il n'y ait pas eu aussi derrière des ambitions politiques dans notre parti qui ont poussé à des votes, je dirais, entre guillemets, truqués.
Alors, vous en dites trop peu.
Alors, non, attendez,
je n'en sais rien, je parle
pense qu'il
nom,
va falloir qu'il réponde à un moment donné, parce qu'effectivement, la question que j'allais vous poser en suivant, c'est comment vous analysez le détail des votes au sein des groupes de l'Assemblée. Hein, il a été rendu public, on sait nominativement qui a voté pour, qui a voté contre ou qui s'est abstenu. Et il y a certains députés qui manifestement n'ont pas suivi les consignes de la direction de leur parti, notamment dans les rangs des Républicains. Il y en a 18 qui ont voté pour le projet de loi, c'est pas ce qu'avait demandé Bruno Retailleau, le président du parti, et on sait que ça s'est joué à 13 voix. Donc les 18 LR qui ont voté pour ce projet de loi ont fait basculer, en tout cas ils ont largement contribué à faire basculer le résultat du bon côté pour le gouvernement de Sébastien Lecornu. Alors je redonne tout de suite la parole à Jean-Baptiste de Scora, et vous, comment
alors,
vous vous positionnez par rapport à ça?
J'ai lu un article où il y a un bruit qui court que même il y aurait eu une tractation entre Wauquiez et le Premier ministre pour qu'il y ait suffisamment de députés qui votent pour. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, j'ose espérer que ce ne soit pas le cas, mais bon.
Nous n'y étions pas, mon cher Jean-Baptiste.
Mais je lisais, je parlais d'un article.
Allons.
Bon, là-dessus...
Respectons nos auditeurs.
Ben je les respecte. Voilà. Je ne fais que dire ce que j'ai lu dans un article. Moi, ce que j'espère... je trouve qu'effectivement, il y a eu une tendance dite par notre chef de parti. Mais d'un autre côté, c'est très bien et je la soutiens. Je soutiens ce qu'a dit M. Retailleau, mais d'un autre côté, c'est quand même bien d'avoir une liberté de vote. Et je trouve que de ne pas voter tous les uns comme les autres en un seul homme, c'est plutôt démocratique, on va dire ça comme ça.
Voilà. Moi, c'est tout à fait ce que je pense, parce que bon, moi, je suis issu d'un petit parti. Donc, c'est vrai que chez les radicaux, on n'était pas si nombreux. Donc, ça nous permettait vraiment de nous réunir et de discuter. Et si on était d'accord, tant mieux. Et si on ne l'était pas, on gardait chacun notre libre arbitre au moment du vote. Donc ça, c'est la première remarque. C'est sûrement aussi pour ça que j'appartenais à ce parti, parce que je n'avais pas du tout envie d'avoir le doigt sur la couture. Et aussi parce que ce que disait Régis, c'est quand on rentre dans sa circonscription, il faut être capable de dire pourquoi on a voté ceci ou pourquoi on a voté cela.
Et ça, c'est quelque chose.
Voilà. Ou pourquoi on l'a pas voté. Et moi, c'est ce que je disais en tant que sénatrice. On n'est pas performant sur tous les sujets, mais on va pas là-haut pour s'abstenir tout le temps par ignorance. Donc, on se renseigne, on travaille. Et moi, ça m'est arrivé de temps en temps de dire. Je me suis abstenue parce que vraiment, mais ce sujet-là, j'y ai rien compris, ou voilà. Mais sur des sujets comme la sécurité sociale, le budget ou quelques autres, on mouille la chemise. Et quand on rentre à la maison en circo, ben, y a des gens qui diront, mais qu'est-ce que c'est ça, je voterai plus pour vous. Ben, tant pis, je vous dis pourquoi.
Les gens votent pour qui, voilà.
Et ça, c'est la démocratie. Voilà. Et ça, c'est la démocratie dont on rêve.
Oui. Régis Godec, oui. D'ailleurs, chez les écologistes, est-ce qu'il y en a certains qui n'ont pas voté comme le préconisait la direction du parti ?
Bon, sans doute, vu qu'il y a eu trois votes différents, j'imagine que soit il y avait trois consignes, soit il y en a deux votes qui n'ont pas suivi la consigne, mais en fait, je m'en réjouis.
Voilà,
c'est-à-dire, voilà.
On s'en réjouit tous, donc, voilà.
C'est-à-dire que je ne souhaite pas que les partis politiques dirigent la France.
Voilà.
Tout simplement, le mien comme les autres. Et qu'il y ait, par exemple, si on repart à l'époque du grand bipartisme, des accords qui se fassent dans les états-majors de tel ou tel autre parti, parce que là, les coups de fil, j'imagine qu'ils devaient exister, et que le... Non, mais je parle du bipartisme, quand il y avait le PS d'un côté, l'UMP de l'autre, et je pense qu'on pouvait gérer le pays, finalement, à une dizaine de personnes qui se passaient des coups de fil et qui négociaient des choses. Ben là, si on tient en compte la parole de 577 députés, qui représentent la souveraineté populaire, ouais. En fait, c'est ça, hein, le sujet de l'Assemblée nationale, et du Sénat.
C'est ça. Les parlementaires sont obligés de mouiller la chemise.
Ils sont obligés de mouiller la chemise et de construire voilà. Des éléments de discours et qui lui vont bien. Alors après, que les partis donnent des recommandations, c'est logique.
Oui.
Voilà. Donc notre parti a donné la recommandation d'obtenir un certain nombre d'éléments supplémentaires, notamment dans le volet dépenses. Donc ce sont les dépenses de santé 3%. Et 3% de l'ONDAM. L'ayant obtenu de la part du gouvernement, il était logique que quand il y a une revendication, qu'on obtient la revendication, évidemment ce n'est pas le projet de loi de nos rêves, hein, on puisse se positionner de telle façon qu'il soit adopté. Parce que, je ne veux pas dire c'était le budget ou le chaos, hein, je ne suis pas sur cette ligne-là, mais quand même, l'adoption d'un budget est plutôt une bonne nouvelle pour la France. On ne va pas se mentir.
On l'attend depuis longtemps, ça c'est sûr.
Et moi, la stratégie du blocage, hein, ou la stratégie de l'obstruction, c'est pas une stratégie parlementaire qui est digne de la fonction de parlementaire, ni au Sénat, ni à l'Assemblée.
Tout à fait.
L'aventure n'est pas terminée. Le projet va faire sa navette.
Oui. Parce qu'il va aller au Sénat.
On va voir s'il n'est pas.
À
alors, dégradé, à mon sens, peut-être amélioré au sens de Jean-Baptiste de Scorail, puisque je pense qu'on ne place pas le curseur à un même endroit.
Non,
mais
c'est ça.
Si on touchait évidemment à la grande avancée qui est la suspension de l'application de la réforme des retraites, pour nous, ce serait une énorme dégradation. Ça le viderait de tout son objectif. Mais je voudrais féliciter quand même aussi ceux qui ont eu le courage, il y a quelques mois, de donner sa chance à ce gouvernement, finalement. Et Olivier Faure, les socialistes n'y sont pas pour rien. Et on leur a beaucoup reproché de ne pas avoir voté la censure par a priori. Eh bien, on voit que finalement, c'était peut-être une bonne option, parce que ça donne la possibilité à un gouvernement de montrer ce qu'il est capable de faire et s'il est capable de rentrer dans une logique de compromis. Et j'en profite pour dire, puisque je suis candidat au municipal et candidat...
On va le savoir.
Eh oui, je suis venu pour vous le dire, vous le rappelez.
Je le dis dès le début.
Non, je ne
m'inquiétez pas.
À la présidence de la métropole, qu'effectivement, c'est dans cet esprit de logique et de construction du compromis qu'on peut avoir des institutions qui fonctionnent bien, et notamment une institution intercommunale comme la métropole.
Alors, si on rentre un peu... Alors, vous vouliez réagir peut-être, Jean-Baptiste de Scorail.
C'est difficile parce que, effectivement, moi, ce qui m'a vraiment interpellé, qui me fait basculer d'un côté plutôt que de l'autre, c'est-à-dire de j'aurais voté, c'est pas l'idée d'aller censurer le gouvernement. Ça, je suis plutôt contre parce que je pense qu'il faut qu'on avance et que la France avance. Alors qu'une partie de mon électorat souhaiterait qu'on fasse le Mais moi, je suis pour le parti de la France, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il faille avancer. Mais cette histoire de réforme de retraite, j'y reviens parce que c'est important pour moi. Bien sûr que cette réforme n'était pas bonne. Ça, je suis d'accord. Je pense qu'on aurait pu trouver d'autres moyens. Mais elle est indispensable. Et d'aller faire croire aux gens qui vont partir ou qu'on va effectivement suspendre cette réforme, moi, pour moi, ce n'est pas acceptable. Parce qu'on trompe les Français. Et vraiment, au fond de moi-même, je trouve que on a suffisamment exagéré dans la vie politique en trompant les Français. Et d'ailleurs, la situation maintenant est due un peu à ça. Qu'on continue, parce que tout le monde le sait, et personne ne veut le dire, mais tout le monde le sait que cette réforme, elle ne s'appliquera que si effectivement il y avait un maintien du gouvernement actuel, etc. Et d'ailleurs, ils l'ont tous dit, on attend la présidentielle pour savoir exactement quelle sera la réforme qui sera faite, quoi.
Oui, alors si on regarde un peu le contenu, bon, vous en avez tous déjà un petit peu parlé, hein, de ce budget de la Sécu adopté par l'Assemblée nationale. Il prévoit, Françoise Laborde l'a dit lorsqu'elle a pris la parole la première fois, un déficit de 19,6 milliards, hein, c'est très précis, pour 2026. Il y en a 23 qui sont annoncés pour 2025, avec des dépenses d'assurance maladie augmentées de 3% et une suspension de la réforme des retraites. Ça correspond aux enjeux auxquels la France est confrontée aujourd'hui, vous pensez, compte tenu de son niveau d'endettement et de déficit public? Parce que quand on dit « je l'aurais voté », ça veut dire que vous auriez voté ça. Hein.
Oui, mais aussi pour les mêmes raisons, pour les raisons que j'avais envie d'un budget de la Sécurité sociale. Je dirais que peut-être je me serais abstenue, mais je pense que j'étais capable de le voter, oui. Parce que, voilà, je pense que cette suspension, bon, on peut dire qu'on n'est pas d'accord, etc. De toute façon, on y reviendra. Sauf qu'il faudra, et là, j'attends... les candidats, candidates à la présidentielle, capables de dire dès le début ce qu'ils feront. Parce que c'est vrai que faire les choses hors de route, avec deux pas en avant, trois pas en arrière, c'est pas viable. Ça, c'est vrai. Après, est-ce que le Français est capable de se dire « Oui, je vais peut-être être obligé de travailler, non, parce que ceux qui reviennent à 60 ans, alors je veux bien ». Mais est-ce qu'on sera obligé de travailler jusqu'à 62, 63, sans aller jusqu'à 67, comme dans d'autres pays, etc. Mais parce qu'on a des vrais chiffres. En fait, j'ai l'impression que les chiffres changent tout le temps et on nous en fume un peu. Moi, je rigole si je vous ai dit les 30 milliards, les 19 milliards, etc. C'est sûr qu'en faisant plus de dépenses et en supprimant la retraite, je ne vois pas comment la sécurité sociale... Non, mais
oui,
je suis honnête.
Françoise, oui, c'est bien.
Voilà, je ne vais pas me la jouer. Ou alors, j'ai raté une ligne recette, parce que j'ai vu passer un milliard par-ci, un truc par-là. Oui, mais qui est-ce qui paye? C'est les mutuelles. Et si c'est les mutuelles, c'est le citoyen.
Oui,
parce que
c'est
là,
le Français qui va payer.
Là, en revanche, on nous le passe à toutes les sauces. D'ailleurs, je n'allume plus la radio, ça me fatigue. On vous dit, ah oui, mais mon pauvre monsieur, votre mutuelle va augmenter. Bah, oui, c'est sûr que si d'un côté...
Bah, mécaniquement, voilà. Je ne vois pas comment
donc,
ça pourrait être autrement. Bon.
C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un pays où on a une grosse augmentation de la pauvreté, on ne peut pas le nier. On a des problèmes de chômeurs, de gens qui... Bon, la pauvreté, la précarité qui augmente. Mais le miracle à 3 balles, j'y crois pas trop non plus.
D'autant plus qu'on nous dit qu'en même temps, il va falloir augmenter assez considérablement le budget de la défense.
Alors c'est vrai, pardon, qu'il faut sûrement taxer un peu plus. Mais c'est là que nos amis de droite,
c'est pour ça
que et Retailleau,
voilà,
pour ne pas le nommer,
c'est pas possible de voter
pour
un
ne pas le nommer, dit « Ah ben non, on taxe pas ». Ben, à un moment, il va quand même falloir là continuer à se parler autour d'une table et mettre des chiffres.
Oui. Régis Godec. Sur ce
point. On est dans la question voilà, qui peut nous diviser très largement. C'est-à-dire que je pense que personne ne défend l'idée d'un budget qui est structurellement déficitaire sur plusieurs années. On peut avoir un budget déficitaire si on fait une politique d'investissement, qu'on prépare l'avenir
et que
ça dure un certain nombre d'années et qu'en fait on anticipe d'autres recettes.
Et là on sait pourquoi.
C'est pas un problème.
Fait, oui.
Mais avoir un budget déficitaire de manière structurelle sur plusieurs années, ce n'est pas souhaitable. Mais comment on fait pour avoir un budget qui n'est pas déficitaire? Est-ce qu'il faut diminuer les dépenses? Là, j'entends très bien la ligne de Jean-Baptiste de Scorail, ou ce que vous citiez hein, sur les dépenses de santé, sur la retraite. Ou est-ce qu'il faut augmenter les recettes? Et là, moi, quand je regarde l'évolution de la fiscalité et l'évolution de notre pays et la fin de la redistribution et la diminution des politiques sociales depuis 2017 en particulier, c'est-à-dire depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, qui a voulu mener une politique de l'offre, c'est-à-dire on baisse vraiment la fiscalité, notamment la fiscalité entreprise, pour pouvoir exporter, et ça va nous amener de la richesse, ça va être redistribué, c'est un échec total. C'est un échec total. 8 ans plus tard, c'est démontré par tous les économistes. Donc je pense qu'il faut savoir reconnaître de ses erreurs et pouvoir remettre des niveaux de fiscalité sur les entreprises qui permettent d'avoir une réduction des inégalités dans notre pays et des politiques de solidarité qui sont à la hauteur du modèle social que l'on défend. Et je crois que c'est là-dessus qu'on doit avoir un débat politique pour donner le pouvoir à une majorité politique en 2027 qui sera capable de mettre en œuvre ce projet-là. Mais il faut le dessiner, il faut le défendre et il faut avoir le courage de dire ce pays est dans un contexte pré-révolutionnaire, certains le disent, parce que la France a le culte de l'égalité et que là, on est en train de déconstruire le modèle français. On a des inégalités qui sont criantes et qui sont insupportables, en vérité.
Jean-Baptiste de Scorail.
Sur le problème des inégalités, oui, c'est vrai. Elles sont criantes et insupportables. Ça, j'en suis entièrement d'accord. Et ça ne va pas s'arranger. J'ai toujours tendance, et je l'ai souvent expliqué dans cette émission, à parler des problèmes des gilets jaunes. Des vrais gilets jaunes, je dirais, pas des casseurs.
Du départ.
Du départ. C'est que quand vous avez des gens qui sont Bac+5, je prends toujours l'exemple de mon assistante, et qui est obligée de déménager parce qu'elle n'a pas les moyens d'habiter à Toulouse, et que quand elle veut aller travailler, il n'y a pas de train, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela, parce qu'il n'y a pas assez de conducteurs, parce que la SNCF ne met pas les moyens dans la réparation de ces trains, etc., c'est insupportable. Bon, maintenant, je reprends aussi mon verbiage là-dessus que je disais toujours, c'est d'un côté, la gauche, elle parle de taxer, et nous, on parle de gérer. Et ça, c'est important. Je crois qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire, de telle manière à ce qu'il faille redonner du pouvoir d'achat aux Français. Quand on a sur un salaire 25-26% de charges, c'est plus tenable. Ce n'est plus tenable.
Mais excusez-moi, M. Doscorail, juste pour la discuter aussi, regardez le modèle du logement social. Comment il a été, vous dites votre assistante qui ne peut pas se loger à Toulouse, tout le système de financement du logement social a été détruit par Emmanuel Macron ces dernières années.
Et je ne défends
c'est pas avec moins de taxes qu'on va s'en sortir.
Régis, vous savez, je le dis toujours, je ne suis pas macroniste. Donc je parle au niveau national et au niveau national, je trouve qu'effectivement j'ai toujours été dans ce sens-là. Moi je suis plutôt un vrai démocrate chrétien dans le vrai sens du terme. Alors je le dis là parce qu'on est à radioprésence, mais le mot chrétien est important. C'est-à-dire que je fais attention à la personne. Et à la personne, c'est aussi quand on voit comment voulez-vous que les gens vivent avec le SMIC actuel. C'est impossible. Il n'y a pas eu de revalorisation des salaires et je suis aussi pour la revalorisation des salaires. Je suis pour le partage par l'intéressement à la participation. Mais d'aller étouffer les entreprises, d'aller étouffer les salariés, d'aller étouffer les personnes âgées qui ont leur retraite et on veut supprimer l'abattement. Bon, finalement, ça n'a pas été le cas, quoique. Pour l'instant, on en reparle encore des revenir dessus.
C'est pas voté.
si vous voulez, non. Il y a un moment où il faut qu'on gère. Et je discutais au conseil départemental avec certains de mes homologues socialistes, parce que, vous savez qu'au conseil départemental, nous ne sommes pas nombreux représentants de l'opposition. Oui. Mais qui disaient qu'effectivement, il fallait quand même qu'on réfléchisse sur les différentes strates. Et là-dessus, moi, j'ai évolué. Et je pense que la réforme du président Sarkozy était peut-être la bonne. L'idée, c'est que il faut se poser les vraies questions. Est-ce que dans certaines strates, de notre organisation, il ne faut pas réformer.
Réforme territoriale.
Oui, dans la réforme territoriale. Ça peut être aussi de l'argent qui puisse permettre. Et je ne suis pas contre le fait qu'on ait donné un pourcentage supplémentaire pour les hôpitaux, pour tout ça. Je pense que... Non, alors au départ, moi, j'étais un peu la vision de supprimer le département. Et puis finalement, je me suis rendu compte que ce n'est pas le département qu'il faut supprimer. Je pense qu'il faut... On a voulu réformer les régions, et les régions, finalement, on a doublé les dépenses, etc.
Ça
parce
faire
que.
Des économies, voilà. On les a
alors,
pas trop vus.
Il y a un autre point aussi, moi je suis conseiller départemental sur un canton uniquement métropolitain, et je voudrais aller voir à Lyon ce qui se passe, parce que je me dis que est-ce que ça sert vraiment qu'on ait des conseillers départementaux uniquement métropolitains, alors que. la même chose dans la métropole peut se faire, etc. C'est des questions qu'il faut se poser. Et je crois que même des socialistes se posaient cette question. Je crois qu'à un moment, il n'y a pas de tabou et il faut qu'on aille de l'avant. Donc peut-être qu'en faisant des réformes, ça permettra de développer financièrement un peu la France, redonner finalement aux uns et aux autres du pouvoir d'achat, peut-être réduire la dette et aussi arriver à enfin réformer ce pays. Voilà.
On va terminer en revenant à la première question que je vais poser, aux conséquences politiques hein, de ce vote, de l'adoption de cette loi, de ce projet de loi de financement de la Sécu. Est-ce que vous croyez que le gouvernement de Sébastien Lecornu, maintenant, va tenir au moins jusqu'aux prochaines municipales de mars 2026, voire peut-être jusqu'à la présidentielle de mai 2027, parce qu'on ne donnait pas trop cher de sa peau lorsqu'il a été désigné Premier ministre, Sébastien Lecornu. Françoise Laborde.
J'avoue que bon, j'ai pas une boule de cristal.
C'est un pronostic.
C'est un pronostic, mais bon, disons que là, bon, il a réussi. Il a pas crié victoire, hein, comme je disais tout à l'heure.
De toute façon, c'est pas son genre.
Mais c'est pas son genre.
C'est pas des libéraux.
Donc, il a réussi et il doit continuer parce que c'est pas fini,
on
le disait. La navette n'est pas finie. Il y a le budget, il y a d'autres choses.
Enfin, le budget.
Donc, le budget, on annonce que ce sera difficile.
Donc, voilà. Donc ça risque d'être difficile.
Le budget n'est pas voté.
Pour l'instant, les menaces de censure se sont un petit peu calmées, puisque chacun a essayé de jouer sa partition le plus intelligemment possible. Je pense que le premier qui va dire la censure, c'est nous, je ne suis pas sûre que les Français...
Oui, que juste,
voilà. Donc... Pour l'instant, il avance à petits pas. Jusqu'au municipal, je pense qu'il a ses chances, qu'il peut, voilà.
Oui.
Après, c'est un autre jour.
Plus on va se rapprocher des municipales, voilà. Plus ça posera un problème. Si
voilà, j'ose espérer qu'il n'y aura pas... Mais pour les municipales aussi. Parce qu'on voit bien que c'est quand même difficile de mener de front et de mélanger... que ce n'est pas spécialement positif aucun parti, ça dépend où on est. Hein. Pour certains, c'est peut-être un avantage, et dans d'autres villes, ce n'est pas un avantage, de mélanger le national et le municipal. Donc, il me semblerait que ce serait bien, vous voyez, j'y mets toutes les circonvolutions.
Ça, ce sont vos souhaits.
Ça, c'est mon souhait, et je pense que ça peut le faire.
Régis Godec.
Ah, difficile de prévoir. Sébastien Lecornu peut avoir un destin comme l'a eu Theresa May. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la première ministre de l'Angleterre au moment du Brexit. Toutes les semaines, on annonçait qu'elle allait tomber la semaine prochaine. Et à chaque fois, elle gagnait ses votes à l'Assemblée à quelques voix. Peut-être qu'il va continuer comme ça jusqu'en 2027.
Ah ouais, moi, je ne parlais pas de 2027. Je parlais des municipales.
Mais j'ai entendu. Mais peut-être qu'il peut...
Ah, il peut peut-être aller plus loin.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on assiste à l'agonie du macronisme. Un mouvement qui était quand même construit autour d'un homme, avant tout, qui n'a jamais eu une idéologie vraiment propre et qui n'a jamais eu une assise militante vraiment installée dans les territoires. Et on voit qu'on ne peut pas gouverner la France comme ça. Et après plusieurs épisodes, l'épisode Bayrou, là on a l'épisode Lecornu, on ne sait pas comment l'histoire va se terminer, mais on voit quand même des forces politiques qui tentent de s'émanciper du président de la République. Et ça, c'est une bonne nouvelle, parce que ça redonne de la voix au débat politique, ça redonne de la place aux chambres parlementaires, et on verra dans les semaines qui viennent si... Et c'est ce que je souhaite un petit peu, cette culture ou cette expérience de la construction par le débat parlementaire, elle peut nous permettre de gouverner le pays pendant le temps qu'il faudra. Si on n'y arrive pas, c'est quoi qui va nous arriver en fait? C'est une confrontation politique. Une confrontation politique avec des forces qui ne demandent que ça. Des forces qui disent, bah voilà, nous on connaît, on a notre programme, nos idées, c'est clair, c'est comme ça que ça doit fonctionner, pas autrement. Tous ceux qui pensent différemment sont des traîtres. Bon, le premier à le faire, c'est quand même le Rassemblement National. Et lui, il est prêt à gouverner avec une ligne aussi simpliste et, à mon avis, extrêmement dangereuse. Donc, sachons nous rassembler autour de l'esprit parlementaire.
Et avec vos alliés ou ex-alliés, je ne sais plus comment il faut les appeler maintenant, de la France Insoumise, vous étiez dans le Nouveau Front Populaire avec eux.
Je vois bien qu'on se fait crier dessus, notamment par ce vote.
Absolument.
Qui a une ligne qui est simpliste. Et populiste, je le déplore. Moi, on n'a pas construit le Nouveau Front Populaire pour se crier dessus et pour gouverner à coups de menton. Donc, je pense que, effectivement, si c'est la ligne qui est la ligne qu'ils vont choisir pour les prochaines échéances électorales et notamment législatives et présidentielles, nous n'aurons pas à faire campagne ensemble.
Jean-Baptiste de Scorail.
Alors, je vais être aussi encore, je veux dire, peut-être jésuite, on va dire, mais.
Décidément, les références religieuses.
Ouais, non, mais c'est pour faire plaisir à M. Gotek aujourd'hui que je fais ça. Non.
J'ai pas de problème.
Non, mais je sais qu'il n'y a pas de problème. Hein. Non, mais c'est une plaisanterie. Et en fait, je ne suis pas pour une instabilité d'aller faire tomber le gouvernement. Et je pense qu'on a besoin de stabilité pour la France. Bon, même si ce n'est pas les conditions que j'espère. Mais par contre, il y a quelque chose qui me choque. Moi, c'est l'attitude des députés qu'on entend. Et encore aujourd'hui, en disant, vous comprenez, on fait attention à notre place. Hein, vous comprenez, on a peur de nos électeurs. Mais ça, ça me choque. Alors c'est en contradiction avec ce que je viens de dire. Ça me choque parce qu'un député ne devrait pas avoir peur de ses électeurs. Si le député, comme le disait Françoise tout à l'heure, si il défend les intérêts de ça et qu'il est sûr de ce qu'il pense, il doit être capable de l'expliquer à ses électeurs. Moi, ça m'a jamais choqué que quelqu'un vienne me dire « je ne voterai pas pour vous ». C'est pas grave, chacun vote pour qui il veut. Maintenant, j'ai une vision des choses, et quand j'entends toute la journée certains vous dire que, vous comprenez, on a peur de pas être élu, etc., moi, c'est ça qui me choque.
Oui. Alors, toujours est-il que ce projet de loi de financement de la Sécu, on y revient, va maintenant être soumis au vote des sénateurs, comme nous l'avons dit, et qu'a priori, ceux-ci devraient l'adopter. Alors, il sera peut-être amendé sur certains points, on ne sait pas, on va voir. Après, il va repasser devant les députés pour une adoption définitive. Est-ce qu'elle le sera, là encore, on ne sait pas. Il pourrait y avoir quelques changements dans les votes, et comme ça s'est joué à 13 voix près, on ne sait pas ce qui pourrait se passer. Pour nous, c'est le moment de la pause dans cette émission, une petite virgule d'une vingtaine de secondes, et on se retrouve avec mes trois invités. A tout de suite.
La mêlée de l'info, Éric Dupri.
Retour au direct, je suis toujours en compagnie de Françoise Laborde, Régis Godec et Jean-Baptiste de Scorail. Samedi dernier, Jean-Luc Mélenchon était auditionné par une commission d'enquête parlementaire sur les liens supposés entre partis politiques et réseaux islamistes. Il s'y est défendu de la moindre complaisance à l'égard de l'islamisme et a rejeté les accusations d'antisémitisme qui visent la France insoumise. Il a assuré que son parti n'acceptera jamais l'entrisme religieux et qu'il avait déjà été innocenté sur ce point par les travaux de la commission. Jean-Luc Mélenchon a ajouté que la question de la laïcité de l'État est fondatrice pour LFI. Il ne faut pas confondre, a-t-il dit, l'islam et l'islamisme avec le terrorisme. D'autre part, il considère la laïcité comme protectrice de la liberté du culte, celle-ci étant garantie par la loi de 1905 qui n'est pas un athéisme d'État, ce sont toujours ses mots. Selon de nombreux observateurs, le leader de la France insoumise aurait brillamment répondu aux questions des membres de la commission d'enquête et il aurait levé les soupçons d'entrisme islamiste et d'antisémitisme au sein de son parti. Est-ce que vous partagez cet avis concernant sa prestation? Est-ce que vous avez été convaincu par les arguments qu'il a opposés aux accusations portées contre son parti? Je pose d'abord la question à Régis Godec.
Je vais commencer par faire un aveu. Je n'ai pas pu regarder l'intégralité de son intervention. J'ai vu des extraits qui circulaient sur les réseaux sociaux et des personnes qui trouvaient qu'il avait été excellent et qu'il avait donné une leçon. Aux membres de la commission, à tel point que certains se demandaient si les membres de la commission eux-mêmes avaient le niveau requis, en fait, pour poser un débat sur la question de la laïcité avant tout, et ensuite peut-être de l'entrisme de mouvements religieux dans les formations politiques. C'est en tout cas une certaine mésaventure pour le Parti Les Républicains et son président Laurent Wauquiez qui avait fait la demande
oui, qui était de cette audition de cette
et qui a oublié de venir. Oui, c'est malheureux.
Il y a autre chose à faire.
Quelque chose de plus important, mais c'est peut-être. Dommage quand on demande une commission d'enquête parlementaire et qu'on ne vient pas siéger, puisqu'il aurait peut-être pu poser des questions directement à Jean-Luc Mélenchon. Raison. En tout cas, ce qui frappe, c'est que la question de la laïcité dans notre pays est une question vivante et nous parlons quelques jours après le 120e anniversaire.
C'est pourquoi ce sujet
s'impose. Des lois du 9 décembre 1905 et nous parlons entre trois personnes qui ont siégé dans la même instance à savoir le Conseil de la laïcité à la ville de Toulouse, Toulouse Fraternité. Nous avons siégé à des périodes différentes peut-être, mais en tout cas sur la séquence 2014-2020. Et c'est un sujet qui est... La laïcité est un principe, et c'est un principe qui doit se débattre. La laïcité n'est pas une... Il n'y a pas la laïcité en soi, et on pourrait dire, attention, tout est écrit dans la loi, ça doit fonctionner exactement comme ça. En fait, c'est un principe et il y a beaucoup de choses dont il faut discuter sur la mise en place de la laïcité ou pas. En tout cas, je me réjouis d'entendre dans la bouche de Jean-Luc Mélenchon que la laïcité n'est pas un athéisme d'État. Parce qu'il y a une interprétation, effectivement, qui a eu voix au chapitre, pour prendre des références religieuses, en 1905 dans la bouche d'Émile Combes au moment de la discussion sur les lois, et cet athéisme d'État a été écarté. Et les lois de 1905, la laïcité à la française, sont des lois qui permettent la liberté de conscience, avant tout, et donc la coexistence des cultes. Et là-dessus, je me réjouis que Jean-Luc Mélenchon ait eu la possibilité, par cette commission, de clarifier, parce que c'est vrai qu'il est régulièrement accusé de quitter cette ligne historique qui est la sienne, qui est le mouvement politique auquel il appartenait, et que son mouvement, peu à peu, se lance dans une quête communautariste, d'un électorat supposé communautariste, pour avoir l'espoir de gagner les élections. Je pense que c'est une accusation qui est fausse, il a pu le démontrer, mais c'est intéressant qu'on puisse être vigilant, que chacune des formations reste avec des principes strictement républicains, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une communauté, c'est la République, et qu'à l'intérieur de cette communauté, il peut y avoir des orientations différentes, mais des orientations qui restent personnelles. Là-dessus, je crois savoir qu'il a répondu plutôt avec brio. Je me permets de dire aussi que si les gens ont été impressionnés par ses prestations, c'est qu'il y a peut-être un gap de culture politique et historique entre lui et peut-être des nouvelles générations politiques qui sont moins abreuvées par la lecture et par les idées.
Et c'est un bibliothécaire qui vous le dit, un grand lecteur, je le sais. Jean-Baptiste de Scorail, qu'est-ce que vous avez retiré de la prestation de Jean-Luc Mélenchon et de tous les commentaires qui ont pu être faits ensuite?
Je vais employer un terme qui est peu... je dirais que Jean-Luc Mélenchon était un beau parleur, mais c'est vrai, dans le sens où, comme le dit Régis Godec, c'est quelqu'un qui a de la culture, qu'il est très fort, que c'est un tribun, etc. Maintenant... Bien sûr, la laïcité, c'est fondamental. Nous avons eu un débat cette semaine au Conseil départemental sur la laïcité. Et cette loi de 1905 est fondamentale et extraordinaire. Et heureusement que l'Église catholique a eu cette loi, parce que je pense qu'elle serait quand même... Ça serait compliqué en ce moment. Je peux en parler parce que j'ai terminé le débat sur la laïcité en disant que mon arrière-grand-père avait fait 15 jours de prison parce qu'il avait refusé l'inventaire de son église en tant que maire. Bon, c'est des choses qui arrivent, c'était comme ça. Alors à ça, M. Vassini m'a répondu, les chiens ne font pas des chats, etc. Oui, c'est vrai. Mais cette laïcité est importante, mais le problème, ce n'est pas Mélenchon. C'est le problème, c'est ses troupes, ses députés, qui, quelquefois, vraiment passent des caps... inacceptable. Et c'est là-dessus. Entre ce que dit M. Mélenchon, c'est très bien, mais il faudrait qu'il le fasse appliquer dans son parti, parce qu'on ne peut pas accepter ce qui est dit contre les uns, contre les autres. Et moi, je pense qu'effectivement, contrairement à M. Godec, il y a un esprit qui est très ciblé contre des catégories de la population, qu'elles soient, je dirais même, je veux le dire, catholiques ou même chez les juifs, qui sont inacceptables. On ne peut pas tenir des propos qui ont été tenus. Je ne dis pas que... je ne vais pas donner de nom, mais il faut que M. Mélenchon passe le message, donc dans ce cas-là, pour que, effectivement, le discours soit net. Et le problème, c'est que le discours n'est pas net. Alors qu'il soit très fort et dans cette commission, qu'il ait agi de manière extraordinaire et tout, je n'en doute pas parce qu'il a du talent. Mais derrière, j'ai l'impression que sur le terrain, c'est le contraire qui se passe.
Tout de même, sur le fait que Laurent Wauquiez n'était pas présent à cette commission d'enquête qu'il a lui-même demandé et souhaité, Je suppose que vous en avez parlé au sein du Parti Les Républicains. Bah,
voilà. Moi, je parle en tant que moi-même, parce qu'on n'en a pas parlé personnellement. Mais je trouve que... Alors, je ne sais pas, peut-être qu'avait-il des problèmes, je ne sais pas, quelque chose à faire de plus important. Mais quand on appelle à la création d'une commission, ça aurait été bien quand même qu'il soit là.
Surtout voilà. Lorsqu'on...
Je ne vais pas faire de la langue de bois.
Voilà, vous n'êtes pas le seul.
Après, je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être avait-il une bonne raison. Mais c'est vrai que, sur le papier... Ça fait tâche.
Françoise Laborde.
Alors, ça fait d'autant plus tâche que lorsque l'on demande une commission d'enquête, on sait que, donc, si les personnes qui nous écoutent ne savent pas, on a le droit de ce qu'on appelle des droits de tirage, donc dans les groupes politiques, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée. Et donc, c'est vrai que la moindre des choses, et là, je partage quand même mon étonnement et un petit peu, bon, un peu cool le Wauquiez, là, hein. Pardon hein, de le dire comme ça, mais enfin, moi, j'ai été présidente d'une commission d'enquête, justement, après les attentats, l'assassinat de Charb et d'un certain nombre de journalistes.
Attentat de Charlie Hebdo.
Voilà. Et donc, j'ai été présidente d'une commission d'enquête. Ben, je suis au regret de vous dire que les jours de commission, c'était moi qui les choisissais, comme ça, j'étais sûre d'y être.
Oui.
Déjà, parce que s'il manque un ou deux membres de la commission, je ne vais pas dire qu'on s'en moque, parce que plus on est nombreux, plus il y a d'écoute. Et donc, plus il y aura de transcription réelle. Parce que ce que je remarque, donc, un, le président n'est pas là. Ça fait des ordres. Deux, normalement, quand il y a une commission d'enquête, c'est à la proportion. Donc, il y a des députés de différents groupes politiques. Alors, évidemment...
Bon, c'est censé être représentatif.
Voilà. Donc, c'est vrai que certains ont dû regarder leur godasse et n'ont pas posé de questions. Très bien. Donc, et de deux... LFI était assez représentée, soit en tant que soutien, parce que, ou à la proportionnelle, mais je ne pense pas qu'ils aient beaucoup parlé non plus. Hein, j'ai quand même un peu écouté, justement. Donc, pour moi, c'est une commission d'enquête faussée, déjà. Ensuite, il y a quand même eu M. Mélenchon qui a refusé de venir au début, alors qu'une commission d'enquête, ben, tu ne choisis pas si tu viens ou pas, tu es convoqué. Contrairement à des auditions, des choses comme ça. Moi, j'ai eu le problème avec un ministre de l'Éducation nationale qui ne voulait pas venir. Ben, je lui ai dit, écoutez, je suis désolée, si vous voulez que je dise dans la presse que vous ne voulez pas venir, ça fait désordre. Parce qu'à une commission d'enquête, que vous soyez le pape ou le ministre ou Mélenchon, vous venez. Donc, je suis restée un peu pantoise. Ensuite, bon, moi, je ne dirais pas que c'est un beau parleur, je dirais que c'est un très bon tribun.
Oui, qui a en... non, ce
je ris, je t'embête, ouais, Jean-Baptiste.
Non.
Mais ensuite, il a pris son costume professoral. Et ça, bon, bah, il est très bon. Il nous a fait donc un cours sur donc, l'histoire de la laïcité, de la loi de 1905. Et c'est parfait. Je veux dire, c'est vrai qu'il sait de quoi il parle. Et la loi de 1905... Elle est faite, en effet, pour défendre les cultes, mais pas que. Elle défend les athées et les agnostiques. Il faut toujours penser à la rajouter, quand même. Mais surtout pour vivre ensemble, dans une concorde la meilleure possible. Et là-dessus, il est très bon, parce qu'il a su l'expliquer. Là où il est très bon aussi, c'est qu'il a dit que lui avait un petit peu évolué.
Oui.
Ah oui, parce que oui. Ça, moi, je l'ai entendu, ça,
oui,
par
oui.
contre.
Oui, oui.
Qu'il avait évolué en disant que le hijab n'était plus ou n'était pas un vêtement de soumission. Et allez. Que les adultes...
Des déclarations de Mélenchon qui datent
oui,
un peu.
Oui, on a le droit d'évoluer.
Mais il a dit qu'il avait évolué.
Les adultes ont le droit de s'habiller comme ils veulent, en effet. Allons-y. Mais moi, je m'intéresse aux enfants, aux fillettes. Qui porte le voile, etc.
Comme on en a vu, vous me connaissez.
Vous me connaissez. Bon, on ne va pas le faire dans la religion, etc. Alors, on n'utilise plus certains mots ou on les utilise justement pour montrer d'autres, l'islamophobie, etc. Moi, je suis désolée. Un adulte qui porte, ou une adulte qui porte un voile, ça me fait suer en tant que femme. Parce que ce qu'il oublie de dire, c'est que la loi sur la laïcité, c'est pour l'émancipation. C'est pour la liberté de conscience, comme tu disais, Régis. Donc, là, lui, il a un petit peu rétropédalé et il va vers ce qui l'intéresse. Et là, je suis désolée, peut-être tout le monde ne partage pas, mais pour moi, là, sur ce coup-là, c'est électoraliste. Il lui a pas manqué beaucoup de voix pour une certaine présidentielle où il se voyait au second tour. Il n'y était pas. Eh bien, il a changé son fusil d'épaule. Et voilà. Et là, moi, je sais que je dis en général ce que je pense. Et donc, il parle bien, il avait une laïcité qui était la mienne, il a bien évolué, je ne suis plus dans sa ligne.
Alors, il y a un point tout de même, j'aimerais vous entendre là-dessus. Quand il a dit « mon parti n'acceptera jamais l'entrisme religieux », il a dit qu'il avait été innocenté sur ce point par les travaux de la commission. Or, à ma connaissance, la commission n'a pas rendu pour l'instant son rapport.
Et oui, ça m'a fait sourire
aussi. Quand il dit qu'il a été innocenté, je ne sais pas, Régis Godec...
je ne sais pas,
normal. C'est pas un peu choquant.
Alors, c'est un peu tôt.
Enfin, choquant, en tout cas.
C'est un peu tôt.
Ce n'est pas tout à fait vrai.
Parce que c'est pareil, une commission d'enquête, on a le droit de demander tout ce qu'on veut au niveau... finances. Si on veut voir les finances de son parti, bah, c'est facile.
Donc peut-être que Wauquiez,
à ce moment-là, était entre... Voilà.
En tout cas, ce qu'il ne faut pas confondre une commission d'enquête et un tribunal.
Voilà.
Absolument.
Les parlementaires.
J'ai l'impression que quelquefois, c'est un peu ça. Je ne sais pas, moi, je ne connais pas, mais justement, c'est ce que je regarde.
Donc on n'est pas innocenté quand on n'est pas convoqué au tribunal. Voilà. Mais là-dessus, c'était peut-être dans la démarche de Laurent Wauquiez. Il voulait au départ faire un coup pour pouvoir dire attention, méfiez-vous, ils ne sont pas nets, il y a des forces... religieuses derrière et qui peuvent utiliser ce parti politique. Bon, c'est un échec de la démarche.
Oui,
parce qu'une commission d'enquête, c'est quelque chose qui est intéressant pour soulever des éléments, pour porter des connaissances, pour éclaircir, pour objectiver le débat. Un tribunal, c'est autre chose. Et si Jean-Luc Moutin, qui avait été accusé, par exemple, d'antisémitisme, il aurait été convoqué devant des juges et il aurait eu à justifier de certains éléments là-dessus.
Je ne sais pas ce que vient faire Jean-Luc Moudac dans l'histoire.
Ah, pardon, c'était Jean-Luc Mélenchon.
C'est JLM, mais c'est
bon,
pas le même.
Voilà, je parlais de Mélenchon.
Je ne crois pas qu'il soit sur le même.
Je voulais dire, en revanche, que la question qui est posée n'est pas une question absurde. La question de l'entrisme dans les formations politiques pour des intérêts de certains groupes, soit des groupes religieux, soit des forces étrangères, puisqu'on a aussi de la question de l'ingérence dans le débat public, et en France et dans toute l'Europe. Par du financement, par exemple, de formations politiques, on a vu quand même des actions faussement terroristes organisées par des pays dont on connaît l'origine aujourd'hui, sans doute téléguidées par la Russie. Donc il y a des ingérences étrangères dans notre débat public. Et il n'est pas impossible qu'il y en ait, je ne parle pas que de la Russie, qui peuvent influencer notre débat. Je trouve judicieux qu'on se pose la question, qu'on puisse en débattre en commission d'enquête parlementaire. Bon, si on veut venir faire les gens pour en faire leur procès, vous voyez, ça rate, ça leur fait plutôt une estrade.
Ouais. Voilà, tout à fait.
Et Jean-Baptiste de Scorail, pour finir sur ce deuxième sujet.
Moi, je suis d'accord, si vous voulez, sur le fait que, effectivement, Françoise a raison. Je pense qu'il y a une ambition électoraliste derrière. On le voit partout, que ce soit dans toutes les villes et au niveau international. Donc, il faut faire attention et être mesuré dans ces propos. Et je pense que M. Mélenchon, qui est très fort et qui a beaucoup de compétences, un beau parleur. Et derrière, le problème, c'est que son parti ne le suit pas.
Oui. On va rester là donc pour ce second débat.
Voilà.
Oui, allez-y.
Mais je voulais quand même dire, en effet, son parti ne suit pas. C'est-à-dire qu'il a, lui, une aura, une parole, le verbe. Et en revanche, derrière lui, il n'y a pas le niveau. Je suis désolée de le dire comme ça. Et quand il ose dire par exemple, quand lui dit « moi, je suis la République », bon, c'était déjà un peu juste, mais quand il dit que Rima Hassan, c'est la République aussi, là, c'est très juste, je me dis quand même qu'il ne faut pas toujours jouer sur les mots, sur la parole, parce que ça peut se retourner contre vous. Voilà.
Oui. Parfois, il tombe un peu dans le sophisme, vous voulez dire.
Voilà.
Nous allons rester là pour ce second débat. On va pouvoir profiter des derniers instants de cette émission. Ce n'est pas toujours le cas. Hein, pour que vous puissiez partager vos coups de gueule ou vos coups de cœur du moment, eh bien, Jean-Baptiste de Scorail.
Alors, allez-y. Moi, je suis particulièrement choqué par l'attitude de certains activistes, quel que soit le parti, qui viennent troubler, je dirais, ou une signature de livre, ou une représentation, que ce soit par l'entartrage, que ce soit par les œufs, que ce soit... Je pense qu'il y a un moment où il faut que quand même les gens...
Vous parlez de massacre ?
entre autres. Comme je parle, pas que de Moissac.
Non,
je parle
de Sarkozy, que d'un seul coup, les œufs, ça me fait penser à Moissac.
Mais... je parle du président de la République, je parle de beaucoup de choses qui avaient été entartrées, etc.
Ce qui arrive aussi à, la farine. À certains acteurs d'origine juive qui viennent se faire houspiller.
Voilà. Je crois que globalement, il faut quand même on arrive à expliquer aux gens qu'on est en République, en démocratie, que les gens ont le droit, s'ils veulent faire, et je ne défends pas quiconque, mais ils ont le droit d'aller... faire signer un livre, faire ceci, faire cela, sans que derrière, il y ait systématiquement des gens qui viennent foutre la pagaille. Et moi, ça me choque particulièrement.
Quel est le fait particulier qui vous fait réagir comme ça aujourd'hui?
C'est qu'il faut quand même que les gens aient la possibilité. Jordan
Bardella, moi, ça.
Non, mais je ne parle pas que de Bardella, ce n'est pas le problème. Mais il y en a d'autres. Je pensais plutôt au président Sarkozy. Mais je crois que par rapport à ça, il faut que quand même les gens aient le droit de signer les bouquins sans être dérangés dans leur vision des choses, parce qu'on n'est pas d'accord avec leur position. Que je sache, moi, quand M. Mélenchon vient signer un bouquin, je ne sais pas s'il est venu, je ne suis pas là pour aller lui lancer des tomates. Non, il y a un moment où il faut être quand même responsable.
Françoise Laborde.
Alors moi, je suis contrariée, même un peu, oui, par rapport à, à la dermatose nodulaire. Parce que, on a vécu la vache folle. J'étais sénatrice au moment de la grippe aviaire. Aujourd'hui, on se retrouve avec la dermatose nodulaire, donc avec... une vaccination, mais qui n'est pas encore totale. Donc voilà, l'abattage de bêtes. Oui, il y a des gens, ils se lèvent. Il y a des gens, ils se lèvent, ils ont 200 vaches et le soir, ils en ont zéro.
Ce qui est terrible dans ce que vous dites, et vous avez raison, c'est que la viande, elle est considérée comme comestible.
Voilà. Et là où je suis donc très fâchée, c'est que, on n'a pas pu aller jusqu'au bout du test demandé dans le Gers de savoir si les bêtes allaient guérir ou pas, alors qu'elles sont comestibles. J'ai entendu que par rapport, justement, si on faisait une vaccination systématique, certains pays européens ne voudraient plus accepter notre viande. Alors, excusez-moi du peu, mais il y a le Mercosur, la viande qui vient d'Argentine, du Brésil, etc., avec des normes
qui sont pas les nôtres,
complètement différentes. On préférera manger cette viande-là que la nôtre qui est vaccinée.
Ouais.
Je suis fâchée.
Oui. On compatit avec nos amis agriculteurs, Régis Godec.
Mais moi, je vais reparler de quelqu'un dont on a pas mal parlé ce soir, c'est Laurent Wauquiez. Moi, j'ai été absolument choqué et stupéfait de la proposition qu'il a faite d'organiser une primaire pour la présidentielle qui aille de Gérald Darmanin à Sarah Knafo. Donc Sarah Knafo, députée européenne, compagne d'Éric Zemmour. Il a fait une interview le 28 octobre. Pour expliquer un petit peu son idée farfelue, qu'il considère comme un projet, en expliquant, mais alors, est-ce qu'Éric Zemmour pourra candidater? Là, je parlais de Sarah Knafo.
Oui,
enfin,
ça paraît un peu bizarre.
On est quand même sur la proposition d'organiser un arc qui part de Gérald Darmanin à l'extrême droite. Et qu'en est-il du Rassemblement National? Je ne sais pas s'il est clair sur le projet. J'ai très peur, je suis très inquiet de l'affaissement des Républicains ou de la famille de droite traditionnelle. Et je regrette évidemment des gens comme Jacques Chirac. Les digues sont en train de céder et on a besoin que la famille de droite républicaine se ressaisisse.
C'est la fin de cette 212e mêlée de l'info. Merci à tous les trois d'en avoir été les invités. Merci à Coraline Kamebrak, à la technique. Rendez-vous jeudi prochain. À bientôt. We'll be right back.